lumière sur le chant nouveau et la puissance subtile de la musique. Cette étude sur la musique est apportée par Raymond Teachout. Laissez-moi brièvement vous expliquer les circonstances qui m'ont amené à faire cette étude. À ma sortie de ma deuxième année d'école biblique, en mai 90, Dieu m'a conduit à participer dans l'effort d'évangélisation. C'est alors que, visitant plusieurs églises et ayant l'opportunité de connaître les jeunes qui évangélisaient avec moi, un grand fardeau s'est développé en moi en ce qui concerne la scène musicale dont j'ai été témoin. J'ai réalisé que le milieu chrétien dans lequel je me trouvais l'été dernier, baigné dans l'ignorance et par le fait même dans la permissivité. C'est alors que j'ai exprimé mon fardeau aux responsables et en nous, ayant été un peu intrigué par mon fardeau qui continue de grandir, il m'a demandé de faire une recherche sur le sujet et de la lui présenter une fois terminée. C'est ainsi que, durant l'année, j'ai contacté des professeurs de musique et d'autres docteurs de théologie qui étaient musiciens et dont j'avais reçu l'enseignement durant les deux années d'école biblique. Je me suis plongé dans les livres et les ressources que ces grands musiciens chrétiens m'avaient envoyés. Une deuxième chose qui m'a poussé à produire ce matériel est le souvenir de ma propre adolescence. Je me rappelle d'il y a quelques années quand moi aussi j'étais assez confus par tous les styles de musique que j'entendais. J'étais séduit jusqu'à un certain point par la musique du monde avec laquelle je m'entretenais et qui bien sûr m'attirait. Je sais que j'aurais aimé avoir reçu de l'enseignement sur le sujet à ce moment-là, puisque ça m'aurait évité d'avoir développé un goût pour certaines mauvaises musiques, un goût qui, une fois développé, est difficile à perdre. C'est pourquoi je me suis mis de tout mon cœur et de tous mes efforts à faire cette étude, et j'ai vu la main de Dieu bénir et sa grâce qui m'a aidé à compiler les ressources et à organiser l'information d'une manière claire, concise et compréhensible. Alors gloire soit rendue à Dieu, car ce n'est que par sa grâce que ce matériel a été finalisé. Ce que je vais vous partager durant ces prochaines cassettes est le fruit de ma recherche. Je tiens à dire tout de suite, en partant, que je ne suis arrivé aucunement à tout comprendre sur la musique, loin de là, et encore moins à tout expliquer. Ainsi, personnellement, je n'ai aucunement fini d'étudier sur le sujet. Personnellement, je réalise que je ne fais que commencer. Mais si cette courte étude peut vous édifier, vous communiquer une grâce et vous aider à vous protéger des philosophies trompeuses du monde, alors je serai plus que reconnaissant envers mon Dieu et mon Sauveur, lequel est béni en Jésus-Christ. Que Dieu m'aide donc à m'exprimer et vous à comprendre, et que son esprit nous éclaire dans ces jours de ténèbres. Je vous rappelle aussi qu'il est interdit de reproduire ce matériel dans le but de le vendre. Ceci dit, je vous prie de copier ce matériel autant de fois que vous le voulez pour le distribuer à vos amis ou, encore mieux, de m'écrire pour d'autres copies. Merci. J'espère aussi que vous avez obtenu le livret, le petit livret qui va avec, afin que vous puissiez suivre les illustrations qui vont avec cette étude. Durant ces prochaines quelques heures, nous aurons l'occasion de voir ensemble les fondements de la musique. Pour introduire le sujet sur lequel nous allons parler, j'ai pensé à trois questions qui résument bien tout ce que nous allons traiter. La première en est une qu'on ne s'oppose pas souvent, mais elle est à la base de toute notre compréhension musicale. La musique, c'est quoi? De quoi est faite la musique? Quelle est son essence même ou sa nature? Quel est son champ d'action? Quels sont ses effets, ses répercussions autour d'elle? Autrement dit, la musique, c'est quoi? La deuxième en est une qui est souvent posée aujourd'hui. Que penser aujourd'hui? Dans notre société présente, il y a mille et un styles de musique disponibles. Chacun fait ce qui est droit à ses propres yeux. Il y a quasiment plus d'opinions que de chrétiens. Ainsi, que penser aujourd'hui? Où faire les limites, se demandent beaucoup de gens. Tandis que la philosophie du monde est constamment étalée à la radio, à la télévision, partout autour de nous, l'Église, elle, en général, est silencieuse ou superficielle. Il y a certainement quelques voix dans le désert qui osent en parler, mais elles sont rares. Nous allons répondre à cette deuxième question en dernier lieu. La troisième grande question que nous allons nous poser en tant que chrétien et qu'en dit la Bible? Est-ce qu'elle en parle? À quel point? Qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les principes qu'elle affirme exister? Ce sont toutes des bonnes questions. Et on va tenter de les répondre tout au long des 3 semaines. Nous allons nous servir de 1 Thessaloniciens 5, 21-23 comme tremplin pour notre étude. Paul dit, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous allons faire avec la musique. Pour répondre aux 3 questions que nous nous sommes posées, il faut examiner l'évidence pour pouvoir en premier lieu retenir le bon et s'abstenir ensuite de toute apparence de mal. Et cela, toujours en vue de notre sanctification, la sanctification de tout notre être, ce qui comprend les 3 niveaux, l'esprit, l'âme et le corps. Alors pour examiner l'évidence sur n'importe quel sujet, il faut écouter le témoignage du sujet lui-même. Et pour nous, on va regarder à ce que la musique va dire sur elle-même. Premièrement, on va regarder à sa nature, tout en regardant à son histoire, parce que, comme on va le voir, l'histoire en dit beaucoup. Et finalement, on regardera à ses principes fondamentaux, les règles qui sont comprises dans la musique. Mais où l'on va trouver notre autorité finale? C'est bien sûr dans la Bible. Et contrairement à l'opinion générale, la Bible parle longuement sur le sujet. Il y a plus de 600 passages dans la parole qui réfèrent à la musique. Et je vous réfère à l'annexe de votre livret qui donne une liste de tous les passages sur la musique dans la Bible, avec des observations et des leçons que chaque verset nous apporte. Aussi, chose intéressante à se rappeler, est que le livre largement le plus gros dans la Bible est consacré à la musique. C'est le livre des psaumes. Nous allons regarder à ce que la Bible donne comme principe sur la musique, ce qui va nous donner un cadre, une compréhension pour pouvoir honorer Dieu correctement. Mais aussi, nous allons regarder le lien qu'il y a entre la musique et les autres principes fondamentaux de notre foi. Parce que la musique n'est pas dans un compartiment à part, elle fait un tout avec le restant de la parole de Dieu. Aussi, dans cette introduction, j'aimerais juste établir le cadre général dans lequel va se faire cette étude. On se rappelle qu'une de nos questions était « Qu'en dit la Bible ?» Si vous regardez votre petit livret, vous voyez un petit bonhomme qui lit sa Bible. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve, comme on le sait tous, que la Bible est la vérité absolue. Elle n'est pas, comme on se le fait souvent dire en évangélisant, « Oh, ça dépend de ton interprétation, de ce que tu comprends. C'est subjectif. » Chacun de nous leur répondrait que non, la Bible est la vérité. La parole de Dieu parle de tout ce que nous devons savoir pour avoir une vie sainte, pure et complète devant Dieu. Ainsi, en ce qui concerne la musique par exemple, la Bible parle avec autorité et comme sur n'importe quel autre sujet, elle présente la vérité objective sur la musique. Maintenant, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai, cette vérité objective, mais je dis qu'il y a une vérité objective sur la musique et que l'idée que c'est relatif à la personne, à la culture, etc. est complètement fausse. Cette vérité objective est transmise dans la Bible par des principes. Ces principes restent bons pour toute l'éternité, malgré les changements dans les mœurs et dans les sociétés. Les situations ne changent pas les principes. C'est pourquoi Dieu nous a donné des principes et non des standards. Mais avec ces principes, c'est notre responsabilité individuelle de premièrement les connaître et ensuite de les appliquer. Nous sommes responsables individuellement devant Dieu selon la vérité, que ce soit en matière de salut, d'élever les familles, de santé, de musique, de n'importe quoi. Ainsi, à partir des principes de la parole, nous avons chacun la liberté et la responsabilité de les appliquer à notre situation présente et ainsi de se faire des convictions personnelles. Et de ces convictions, il est aussi nécessaire de se faire des standards précis et personnels qui vont tout simplement nous protéger contre les mauvaises philosophies et contre l'influence du péché, et nous éviter de faire des compromis. Ce qui nous amène tout droit dans Éphésiens 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il parle de l'importance de la vérité de pair avec l'amour. Les deux sont nécessaires. Au début, pour l'illustrer, j'allais mettre une balance entre sous la vérité et l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'idée d'une balance? En y réfléchissant bien, je pense que vous êtes capable de trouver la réponse. C'est tout simplement hérétique que de considérer qu'il faut 50% de vérité et 50% d'amour. Qu'on peut compromettre la vérité pour aimer ou vice-versa. Non, on doit être à 100% dans la vérité et aimer à 100% aussi. C'est pourquoi j'ai mis deux rails de chemin de fer. Ça prend les deux pour marcher droit. On en méprise une et on dévie. Et comme ça, on n'a pas le droit de compromettre l'un en faveur de l'autre ou même de compromettre un peu des deux pour les balancer. C'est aussi comme ça pour Christ qui est 100% homme et 100% Dieu. Ou pour la souveraineté de Dieu, par exemple, versus la responsabilité de l'homme. Dieu est 100% souverain et l'homme est 100% responsable. Bref, revenons à l'amour et à la vérité. D'un côté, nous avons ceux qui vont comprendre l'importance de la vérité, et d'un coup de zèle, ils vont appliquer à la lettre les principes qu'ils trouvent, ce qui n'est certainement pas mauvais. Mais en le faisant ainsi, de nombreux s'enorgueillissent. Mais par le fait même, manque d'amour, jugeant amèrement les autres. On se rappelle que l'amour et l'humilité sont très parallèles. Et cela tombe dans le légalisme, qui est la vérité, souvent tordue par l'orgueil, sans amour. De l'autre côté, nous avons ceux qui se fâchent avec le légalisme, et il y a de quoi, mais ils vont négliger la vérité. Ceux-là croient qu'il y a une certaine objective, mais en pratique, sur de nombreuses questions morales, ils préfèrent ne pas prendre position et laissent beaucoup de choses douteuses se produire, sous excuse qu'il faut s'aimer les uns les autres et ne pas chercher à se critiquer et se reprendre. Ils vont aussi avoir peur d'être dogmatiques, parce qu'ils voient les légalistes être dogmatiques, mais d'une manière orgueilleuse. Ainsi, il est important et primordial de marcher dans toute la vérité avec humilité et amour. Comme dit Paul, professez la vérité dans l'amour. Je voulais juste poser ce fondement essentiel pour ce qui concerne notre sujet, la musique. Conclusion à notre introduction, il y a une vérité objective d'après les principes des Écritures, et c'est individuellement que l'on en est responsable. On est responsable de se faire des convictions et des standards et pour marcher dans la vérité et dans l'amour. Les préliminaires et la base étant donnés, on peut maintenant se pencher sur notre premier sujet, la nature de la musique. La musique a trois caractéristiques qui devraient nous amener à réaliser sa grande valeur. La première qualité m'impressionne de plus en plus, tellement que je l'ai inclus dans mon titre, comme vous avez dû remarquer. La musique a un puissant effet. La musique affecte avec puissance trois choses que nous allons voir bientôt. Mais avant, discutons de sa puissance en général. une puissance énorme, sous-estimée incroyablement de nos jours. Ce qui lui donne sa puissance est justement sa subtilité. C'est comme avec l'histoire de la grenouille. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand on met une grenouille dans un simple chaudron rempli d'eau et qu'on commence à bouillir l'eau peu à peu, la grenouille ne réagira pas, ne ressentant pas la différence de chaleur. Elle finira par mourir et quand l'eau est rendue bouillante. L'eau agit actuellement sur cette grenouille avec une puissance faramineuse, au point même de la tuer. Et la grenouille, toute naïve, n'a jamais soupçonné que l'eau exerce une puissance sur elle. Ce qu'elle ignore ou n'a pas remarqué l'a tué. Ainsi en est-il de la musique. Nous sommes cette grenouille et la musique, c'est l'eau. Certaines musiques d'aujourd'hui nous détruisent peu à peu parce qu'on néglige leur effet sur nous. Sur la puissance de la musique, Andrew Fletcher, un politicien anglais, a dit en 1703 « Donne-moi la sorte de chant d'une nation et je m'en fous de ce qui fait la loi. » Dans son livre « The Secret Power of Music, The Transformation of Self and Society by Musical Energy », c'est-à-dire le pouvoir secret de la musique, la transformation de soi et de la société par l'énergie musicale, David Thame examine de près les évidences qui démontrent clairement la puissance subtile de la musique. Sa recherche comprend une vue sur la musique qu'avaient les civilisations anciennes et des recherches et des expériences scientifiques sur le sujet. Et il n'est même pas chrétien. Il dit dans son livre, oui, ce paradoxe incroyable. Jamais la musique a été si facilement disponible, répandue, aussi diverse, autant pompée dans les magasins, à la télévision, dans les maisons, etc. Mais jamais la théorie ou la connaissance pratique et réelle de la nature de la musique et de son effet ont été à un si bas niveau. Combien c'est vrai? Alors nous allons essayer de voir et de comprendre quelle est cette puissance que possède la musique. Elle affecte avec une grande puissance le physique. Dans plusieurs livres portant sur le sujet que j'ai pu lire à l'Université Laval, c'était bien reconnu que la musique affecte le physique. Chacun reconnaissait qu'il y avait un certain effet sur le corps humain. L'un d'eux disait par exemple, les indications sont que ces sélections de musique, soit vocale ou instrumentale, qui exercent un réflexe favorable sur le système cardiovasculaire, ont aussi une influence favorable sur les tons de muscles, la force de travail, la digestion, sécrétion et d'autres fonctions corporelles. Un autre disait, au temps des Grecs, les médecins croyaient que les airs en mode phrygien constituaient d'excellents remèdes contre la sciatique. Cela enchante le mal, disait Théophaste, et les malades ne sentent plus la douleur. Pour les Grecs, Apollo, le dieu de la musique, était aussi le dieu de la médecine. Dans la littérature médicale tôt dans l'histoire, Caelinus Aurelianus, en 1529, a mentionné l'utilisation de la musique dans le traitement général de l'insanité et localement pour la sciatique. Et similairement, en 1707 encore, dans les mémoires de l'Académie des sciences, de nombreux rapports ont été trouvés de docteurs qui croyaient que la musique avait le pouvoir d'affecter l'esprit ou les pensées et les systèmes nerveux ou au degré même que dans certains cas, il a considéré comme ayant une valeur curative et ainsi de suite. Dans son livre, David Thame va aller beaucoup plus en détail. Il va démontrer avec assez d'emphase qu'il y a rarement un seul membre du corps qui ne peut pas être affecté par des tons musicaux. Et encore, il dit, des investigations ont montré que la musique affecte la digestion, les sécrétions internes, circulation sanguine, nutrition et la respiration. Même le système nerveux est affecté. D'ailleurs, aussitôt qu'en 1920, la neurologie et la musique ont été étudiées et comprises ensemble. Aussi, l'effet est extraordinaire sur notre battement du cœur. David Thame raconte, il est valable de se rappeler que le rythme dans la musique exerce une grande influence sur le battement du cœur, ayant comme tendance de l'amener en conformité avec le rythme de la musique lui-même. Les rythmes du jazz et de rock ont été démontrés expérimentalement comme causant, pour le battement du cœur, la perte de son battement parfait. D'autre part, la musique affecte les animaux aussi. Des scientifiques ont fait une expérience avec des rats. Ils les ont mis dans deux boîtes séparées, avec un tunnel les reliant. Dans une des boîtes, ils ont fait jouer de la musique de Jean-Sébastien Bach, et dans l'autre, du rock heavy metal. Tous les rats ont aussitôt couru dans la boîte où la musique classique jouait. Et les expérimentateurs s'amusaient à changer les deux musiques de bord en bord dans les deux boîtes pour voir où iraient les rats. Et chose comique, mais non sans implication, ces derniers sont toujours allés dans la boîte où jouait la musique de Bach. Alors ils s'amusaient à switcher la musique. Et ce n'est pas comme les rats se sont mis en rond pour discuter de la valeur de la musique qu'ils entendaient. Non, ils agissaient simplement par instinct. Mais si cette expérience n'est pas assez conclusive, peut-être les prochaines seront plus convaincantes. Parce qu'il y avait des expériences qui ont été faites sur des plantes pour voir comment réagiraient les matières vivantes qui n'ont aucun intellect. Deux expériences assez indépendantes ont été faites, l'une en Russie et l'autre au Canada. Et ils ont tous les deux découvert que des graines de blé peuvent grandir plus vite quand elles sont traitées avec des tons musicaux. Au Canada, les graines traitées avec de la musique classique ont poussé jusqu'à 3 fois plus grosses que celles non traitées. Celles en Russie ont été traitées avec des tons musicaux ultrasoniques, avec le résultat qu'elles ont poussé plus vite, étaient plus résistantes au froid et ont donné plus de graines. Lui-même raconte des expériences avec des géraniums, il a encore utilisé de la musique de Jean-Sébastien Bach, et il dit qu'ils ont poussé plus vite. Aussi à Denver, une dame du nom de Madame Retallack a fait d'autres expériences sur des plantes. Une de ces expériences avait comme résultat que les plantes qui étaient placées sous la musique de Jean-Sébastien Bach poussaient jusqu'à 30% plus vite, et que celles qui étaient placées sous de la musique rock, là, hard rock, ont péri en moins d'un mois, en moins de 4 semaines. Et chose comique, c'est que les plantes qui ont poussé avec le régime de la musique de Jean-Sébastien Bach ont poussé plus vite, mais en se penchant vers les écouteurs. Et les autres, qui ont dû subir le rock, ils ont péri, mais en s'éloignant des écouteurs. Eh bien, que dire de toute cette évidence? Une conclusion assez frappante doit être faite. La musique produit, contrairement à la pensée populaire d'aujourd'hui, un effet très objectif. Ce n'est pas, comme certains disent, dépendant de notre culture, de notre arrière-plan, de nos goûts, de nos préférences, ni même de nos convictions. L'effet de la musique est purement et tout simplement objectif, complètement indépendant de notre race, de notre personnalité, de notre caractère, etc. C'est à nous d'étudier et de suivre les lois de la musique et de rejeter celles qui ne suivent pas ces lois. David Thame va démontrer comment les anciennes civilisations, par exemple, aient réalisé cela au plus haut niveau, et aussi qu'ils soutenaient tous que les différents types de musique étaient soit intrinsèquement bons, soit intrinsèquement mauvais. Pourquoi sommes-nous si ignorants? À cause du point de vue philosophique de base de notre civilisation. On vit dans une société matérialiste qui ne veut croire que ce qu'elle voit. Aussi, sa philosophie de base est que tout est relatif, qu'il n'y a en fait aucune limite réelle. Et par conséquent, ceci amène à croire qu'il n'y a aucune loi, et donc aucun mauvais effet sur nous si l'on va à l'encontre des lois de la nature, qui sont existantes, mais elles ne sont pas reconnues. Les gens ne veulent pas les reconnaître. Certainement aussi, à cause de la corruption et de la décadence morale, notre société ne peut plus voir clair. Et ils appellent ce qui est bon mal, et mal ce qui est bon. que ça ne nous étonne pas si la nature de la musique a été oubliée ou négligée en grande partie, puisqu'en général, l'homme de ce siècle change ce qui est naturel et qui vient de Dieu. Donc, la musique a un grand effet sur le physique. Mais est-ce tout? Certainement pas. La musique affecte aussi les émotions. Qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les pensées, les images qu'on a? Je pense que c'est assez évident. Le cirque. On voit le cirque dans toute sa grandeur. On voit le clown qui marche devant, qui fait rire les petits-enfants. Et on voit l'éléphant rose se promener sur un hémicycle. On voit le cirque, je pense. Le chapiteau. On voit le barbapapa en train d'être distribué. Le pop-corn qui vole, etc. Je pense qu'on voit le cirque. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit le cirque? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le Far West? On va expliquer ce phénomène par trois caractéristiques que possède la musique. Est-ce qu'on voit arriver? Eh oui, c'est une parade. Mais est-ce que l'on a programmé notre cerveau de penser à une parade ou auparavant un cirque? Ou de remplacer l'image d'un cirque par celle d'un parade? Non, bien entendu. Cela s'est fait naturellement, automatiquement. Ceci parce que la musique possède cette qualité de sauter au-dessus de la volonté ou de la conscience, sans que vous le réalisiez, sans même que vous en rendiez compte, la musique va atteindre le siège de vos émotions, de vos pensées. C'est ce principe que vont utiliser les producteurs de films. Quand on regarde un film, on voit par exemple, une femme qui s'apprête à rentrer chez elle. Et on devient crispé, on se tient sur le bord de notre chaise et on sait qu'une tragédie va arriver. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la musique qui nous le dit. Et là, on la voit rentrer, se faire matraquer. Bah! Elle s'est... En tout cas. Bref, je vous laisse imaginer le reste, mais qu'est-ce qui nous le dit? C'est la musique qui nous le dit. Ensuite, nous la voyons un bel après-midi en train de pique-niquer avec son mari et tout va bien. C'est un très beau fin de film, quoi. Et là, on se sent bien. Pourquoi? Pourquoi? C'est la musique qui nous le dit. Changer la musique d'une scène à une autre dans un film et on ne comprendrait plus rien. Pourquoi? La musique saute au-dessus de la conscience ou de la volonté. Probablement ce à quoi tous les jeunes rêvent, probablement. Le mariage, oui. La musique, sautant au-dessus de notre volonté, va nous communiquer des pensées et des images. Elle va même aller au point de capturer la pensée et de la retenir tout au long qu'elle est jouée. Alors, voyons encore d'autres exemples. Mais avant, déterminons en avance nos pensées. On va se concentrer sur l'idée qu'on est à l'Église et qu'on chante des cantiques. Nous voyons là devant le dirigeant qui bat la mesure. À gauche, on voit le pianiste qui accompagne avec force et majesté. Et on chante à cœur joie. Là. Même le dirigeant nous demande de nous lever et chanter à toi la gloire. Et là, toute l'assemblée se lève d'un seul cœur et on se met à chanter. Et là, on s'imagine, on voit le pasteur devant en train de chanter avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nos pensées sont allées de l'église à chanter à toi la gloire au Far West pour voir la cavalerie arriver? Parce que la musique capture les pensées. Essayons de recontrôler nos pensées. On va se concentrer, on est encore à l'église. On est vraiment à l'église, on est en train de chanter. C'est impossible. La seule manière de réconcilier les images que la musique est en train de nous communiquer avec l'idée d'imaginer une église serait de se voir une petite église au Far West en train d'être attaquée par des centaines de guerriers indiens et d'entendre le son tant attendu de la cavalerie. Bref, je vous laisse imaginer le reste. Mais pourquoi est-ce que nous ne pensons pas que ça, c'est l'ouverture de William Tell? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à cela? Pourquoi est-ce qu'on pense tout de suite au Lone Ranger, par exemple? Parce que quand cette musique a été écrite, elle n'a pas du tout été écrite dans le but d'être connue comme le Lone Ranger, par le Far West. Parce que dans la musique elle-même, il y a des images, des atmosphères qui sont impliqués. Je vous laisse continuer avec l'imagination du Far West. C'est vrai que c'est seulement après maintes répétitions et par l'usage courant de ces différentes musiques qui aident à ce qu'une image claire et nette se forme dans nos pensées. Un Chinois ne verrait peut-être pas, ou probablement pas, le Far West avec la musique du Lone Ranger. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez encore le Far West en tête? Et là, si je l'éteins, je pense que là, on est libre de recontrôler puis de se remettre dans la situation présente ici au Québec. Mais voyons un peu plus loin sur cette capacité qu'a la musique de projeter des images à notre cerveau. Quelles sont les images que vous voyez, les pensées qui sont stimulées en vous? Oui, certainement, cette musique va probablement parler différemment à l'un qu'à l'autre. Ça, c'était la conclusion de l'Empereur par Beethoven. Mais quelles ont été les images que nous voyons, que nous avons vues? Peut-être que vous en avez vu, mais si vous l'écoutez à deux, vous pourrez demander à celui qui est à côté de vous s'il a vu les mêmes images que vous. Et ça nous indique que la musique ne projette pas nécessairement une image qui est claire, comme pour le Far West, comme pour le mariage, comme pour le cirque. Mais elle projette quand même une image, c'est-à-dire, même s'il est vague, une atmosphère, une pensée. D'accord, qu'est-ce qu'on voit? Juste un autre exemple pour se poser la question, est-ce qu'on voit des images claires ou juste des pensées, juste des atmosphères? Non, je ne pense pas que ce soit une image claire qui vous est donnée, mais que ce soit une image précise ou des images très vagues, la musique capture toujours vos pensées et communique toujours des images, des pensées, des ambiances, des attitudes ou des atmosphères. Il y en a un qui le dit comme ça. On n'a pas besoin de connaître de sens d'un steak pour en apprécier le goût. Et c'est vrai. La musique a souvent été appelée le langage universel, une communication qui parle à tous. Dans un sens, c'est vrai. Mais la musique comme langage universel n'est pas exactement vrai. Elle est totalement différente que l'habilité du langage du cerveau. C'est une fonction de tout le cerveau, et non pas juste d'un hémisphère, comme le langage normal. Aussi, elle n'est pas comme le français et l'anglais, car elle n'est pas cognitive, mais élusive. Cognitif veut dire qui est du domaine de la connaissance, élusif, qui est fuyant, insaisissable, évasif, qui n'est pas clair. Je ne pourrais pas vous communiquer, il est 9 heures, par exemple, avec la musique, mais je peux vous communiquer une atmosphère quelconque, soit de joie, de tristesse, de majestuosité, de sensualité, de corruption, ou toute autre atmosphère qui existe. Conclusion, tandis que la musique a un effet objectif, son sens est subjectif. L'effet de la musique n'est pas relatif, mais son sens, ce qu'elle veut dire, est relatif à la personne, à la culture. Souvent les deux sont mépris, et les gens disent que la musique est relative à la personne qui l'écoute, et ainsi qu'il n'y a pas de musique bonne ou mauvaise en soi. Ce n'est que le sens qui peut être bon ou mauvais en soi, qui peut être bon ou mauvais. Et cela pour une personne, mais pas nécessairement pour tous. Mais ces personnes manquent de faire la distinction entre le sens subjectif et l'effet objectif. Les plantes, comme on a vu, ne comprennent rien à la musique. Pourtant, elles poussent plus vite sous certaines musiques et meurent sous une autre. Donc, rappelons-nous de ces deux premières qualités de la musique. Elles sautent au-dessus de la volonté, puis elle capture notre pensée en y projetant des idées, des ambiances, et la retient tout le long qu'elle est jouée. La troisième qualité en est une autant épeurante que les deux premières, quand on réalise les implications qu'elle a dans notre vie. Autant la musique contrôle la pensée, elle va s'incruster dans le cerveau. Notre tête est comme un ordinateur, il enregistre, il ne perd rien. C'est vrai qu'on a de la difficulté à trouver l'information qui rentre parfois, surtout si on est étudiant, mais ça c'est un autre problème. Mais la musique a cette capacité d'être retenue facilement, plus que toute autre chose. Combien c'est facile, par exemple, d'apprendre des versets quand on les chante. Tenez aussi les publicités. Les compagnies vont dépenser des sommes folles pour quelques secondes à la télévision ou à la radio. Ils vont scruter minutieusement la musique qu'ils vont jouer parce qu'ils savent que c'est la clé. Combien de publicités on se rappelle, n'est-ce pas? Je me rappelle de certaines publicités françaises que je n'ai pas entendues depuis 5 ans. Certaines mauvaises musiques dont je me suis entretenu il y a quelques années restent marquées dans ma tête, faisant surface de temps en temps à l'insu de ma volonté. Ce qui est parfois frustrant. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le renouvellement de l'esprit est possible, de ce que nous pouvons nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans notre cœur, en vertu de sa grâce. Mais la musique n'est pas la seule chose qui rentre dans notre intelligence, dans notre cœur. Elle n'est pas la seule influence de notre cœur. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on touche, etc. Si on écoute la bonne musique et que l'on regarde de la pornographie, notre cœur sera quand même corrompu. Malgré que la musique est probablement la plus grande influence sur un individu, une famille, une société, il y a bien d'autres moyens que le monde se serve pour corrompre les mœurs. Ainsi donc, la question n'est pas la musique, mais le cœur. La question n'est pas la musique, mais le cœur. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 23, 6 dit « Il est comme les pensées de son âme. » Quelles sont les pensées avec lesquelles nous nous entretenons? Quelles sont les idées, les images, les atmosphères, les attitudes que notre musique est en train d'incruster dans notre cerveau? À quel genre de musique donne-t-on l'opportunité de nous former et de contrôler nos pensées? Ce sont là des questions importantes auxquelles il faut répondre personnellement. Soyons certains de garder notre cœur de toute influence mauvaise, que ce soit de la mauvaise musique ou de la pornographie, etc. La musique affecte donc les émotions.